Bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous. C'est la fin déjà d'une semaine sur David Hume dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après avoir, dans le désordre, parlé de morale, des passions, de politique, un peu, de religion, un peu plus, du scepticisme, beaucoup, et de la causalité, tout le temps, c'est de beauté que nous allons parler ce vendredi pour clore cette balade au sein des œuvres du grand philosophe écossais. La légende, ou l'histoire des idées, raconte qu'Emmanuel Kant, après avoir achevé la critique de la connaissance de la causalité développée par Hume dans l'essai sur l'entendement humain, se dit reconnaissant à l'Écossais de l'avoir sorti de son sommeil dogmatique en lui montrant que toute connaissance commence avec l'expérience. Or voilà un compliment, je crois, dont David Hume se serait bien passé, car si vrai soit-il, l'hommage du ponte de Königsberg a eu pour effet désastreux de réduire pour l'éternité son aimable destinataire au statut de marchepied. Aujourd'hui, selon l'injuste idée reçue, Hume serait un nain sur les épaules duquel Kant le géant aurait posé ses semelles de fer pour entreprendre une longue marche vers les cimes de la raison. S'il est certain que Kant n'aurait pas écrit la critique de la raison pure s'il n'avait pas lu Hume, et s'il n'est pas moins certain que la critique de la faculté de juger n'aurait pas non plus vu le jour sans les essais esthétiques, il reste que nous gagnons à lire et connaître Hume pour lui-même, et qu'il faut redécouvrir tous les textes, sans exception, de ce chasseur de métaphysique, ce briseur de substances, ami des passions humaines, sceptique acrobatique, empiriste philosophe, désespéré bon vivant et critique de la religion naturelle. L'homme de goût, qui a le génie de montrer que l'impression précède l'idée et de transformer toutes nos certitudes en habitudes, mérite une autre postérité que celle de précéder le triste criticisme kantien. L'écrivain de talent qu'était Hume n'est pas seulement le réveil matin d'un philosophe indigeste. L'artiste brillant, pour qui la vie est un remède à la raison, n'est pas uniquement un prélude aux lumières. Hume est une fine lame de la pensée, dont des kantiens sans morale ont fait un second couteau, comme s'il ne manquait à l'Écossais délicat que d'être kantien lui-même.
La beauté n'est pas une qualité inhérente aux choses elles-mêmes. Elle existe seulement dans l'esprit qui la contemple. Et chaque esprit perçoit une beauté différente. Une personne peut même percevoir de la difformité là où une autre perçoit de la beauté. Et tout individu devrait être d'accord avec son propre sentiment sans prétendre régler ceux des autres. Chercher la beauté réelle ou la réelle laideur est une vaine enquête, comme de prétendre reconnaître ce qui est réellement doux ou ce qui est réellement amer. Selon la disposition des organes, le même objet peut être à la fois doux et amer. Et le proverbe a justement déterminé qu'il est vain de discuter des goûts. Il est très naturel et tout à fait nécessaire d'étendre cet axiome au goût mental aussi bien qu'au goût physique. Et ainsi, le sens commun, qui est si souvent en désaccord avec la philosophie, et spécialement avec la philosophie sceptique, se trouve sur un exemple au moins, s'accorder avec elle pour prononcer la même décision.
Bonjour Fabienne Brugère.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue de nouveau au Nouveau Chemin de la Connaissance, puisqu'on avait déjà eu le plaisir de vous recevoir, déjà d'ailleurs, pour y parler de beauté. Vous enseignez la philosophie à l'Université de Bordeaux, et vous avez notamment écrit un livre, L'expérience de la beauté, au sujet duquel on vous avait reçu au Nouveau Chemin, paru chez Vrin en 2006. C'est de Hume, évidemment, qu'on va parler pour clore cette semaine consacrée au génial écossais, en votre compagnie, et on va parler de ses essais esthétiques, et plus particulièrement, si vous en êtes d'accord, de l'essai sur la norme du goût. Le texte qu'on vient d'entendre, que Jean-Louis Jacopin vient de vous lire, de nous lire, est extrait donc de cet essai, cet article sur la norme du goût. Et alors, c'est un texte qui semble sceptique, qui est sceptique, et paradoxalement, c'est un texte que Hume, le sceptique, ne reprend pas à son compte. Comment comprendre ce paradoxe ?
Il y a plusieurs choses importantes dans ce texte. D'une part, il y a bien la nécessité de rechercher une règle ou une norme du goût, hein, standard of taste. Et donc, il y a bien la nécessité de penser une certaine généralité du jugement de goût. Et en même temps, comme Hume est foncièrement, sceptique ou empiriste, il y a aussi la nécessité de repartir de la nature humaine, de repartir de l'homme ordinaire et d'une certaine manière de prendre en compte cet axiome de la diversité des goûts.
Mais alors justement, est-ce qu'il n'y a pas une opposition frontale entre l'axiome de la diversité des goûts, qui est le lieu commun du scepticisme, hein, chacun ses goûts, et l'ambition qui est celle de Hume ici, le titre l'indique, de construire une norme du goût.
L'ambition de Hume dans ce texte, c'est de montrer que par-delà la diversité des goûts, il y a des hommes ou des femmes qui ont des sentiments plus justes que les autres, dont les goûts sont plus justes, meilleurs que d'autres. Je pense que cette idée de Hume, qui tient finalement à l'idée de passer finalement à d'un certain nombre de faits, c'est-à-dire le fait du jugement de goût, à des questions de valeur, c'est-à-dire il y a des gens qui ont la capacité de bien juger d'un point de vue esthétique. Cette idée de Hume, je crois qu'elle tient beaucoup à son séjour en France et au fait qu'en France, il a rencontré précisément des hommes de goût. Il a aussi fait l'expérience de la culture française. Il a vu ce que c'était que le goût français. Et donc, d'une certaine mesure, il a vu des gens qui, d'après lui, savaient évaluer l'art. Et je pense que ça, c'est très important. Donc, dans l'idée que par-delà les goûts, il y a des individus qui ont une capacité plus grande que d'autres à bien juger de l'art. Capacité qui se travaille, bien sûr.
On va revenir sur la solution que propose Hume à la tension qu'il y a entre l'ambition de construire une norme et la constatation de la diversité des goûts. Solution qui passe, il n'y a pas de suspense non plus, mais qui passe par cette élite, cette aristocratie du goût que Hume désigne ou construit à la fin de l'essai sur la norme du goût. Mais avant cela, Fabienne Brugère, pour en rester donc à cette opposition entre la diversité et le désir d'une norme ou la constatation d'une norme, est-ce que Hume, l'empiriste qui est Hume, finalement ne part pas de deux idées reçues ? Après tout, quand on rencontre quelqu'un dans la rue et qu'on lui dit « à chacun ses goûts », il sera d'accord. Et si on lui dit en même temps de telles choses, de la Joconde ou d'un coucher de soleil, qu'il est beau, absolument beau et universellement beau, la même personne sera probablement d'accord. Et de sorte, est-ce qu'on ne peut pas considérer que Hume part de deux évidences qui pourtant, quoi qu'elles se trouvent dans la même personne, sont objectivement contradictoires ?
Oui, c'est-à-dire qu'il repart d'une certaine manière du sens commun. Le sens commun, qui se contredit, c'est à la fois la reconnaissance de la diversité et en même temps, c'est la reconnaissance d'un ordre artistique, d'une histoire des arts et donc d'une place, on pourrait dire, de tel ou tel artiste. Même si ensuite les choses sont un peu plus compliquées, parce que Hume lui-même, dans sa reconnaissance après des grands noms de la culture, n'est pas toujours égal à lui-même. Hein. Il y a toute la reconnaissance de Corneille, de Racine, mais il y a aussi tout le dégoût, en quelque sorte, pour Shakespeare.
Oui, auquel il préférait son contemporain John Home, dont je n'ai jamais lu les pièces, j'avoue. Hein,
mais... Donc c'est quand même, ça, cet aspect-là est assez étonnant. Mais c'est sûr qu'il repart du sens commun, et donc finalement de l'appréciation contradictoire, on pourrait dire, de l'homme ordinaire face au goût.
Alors, cette appréciation contradictoire de l'homme ordinaire face au goût et la possibilité de le surmonter, est-ce que Hume en passe pour le faire par une différence, finalement, entre d'un côté le sentiment, de l'autre côté le jugement, et peut-être même l'idée que la fausseté réside dans un jugement plus que dans un sentiment. Après tout, on peut avoir n'importe quel sentiment. Les sentiments ne sont jamais faux. La fausseté intervient à l'instant où au-delà de ce qu'on éprouve, on désigne comme étant réel ou véritable ce qui d'abord relève d'une impression.
Je pense que Hume veut vraiment repartir de deux choses qui donc coexistent dans le goût et qui font effectivement aussi l'histoire de la question du jugement de goût au XVIIIe siècle. C'est-à-dire, d'un côté, le goût, c'est bien un sentiment. Donc, on est du côté, finalement, du sentiment privé et donc de ce qui plaît ou de ce qui déplaît subjectivement. Ce qui peut aussi ramener donc à la notion d'agréable ou de désagréable. Et puis de l'autre côté, donc, le fait que le jugement de goût, c'est quelque chose de reconnu universellement et qu'il y a donc une forme de généralité et d'universalité du jugement de goût. Il essaie de faire coexister, il essaie de faire coexister les deux. C'est-à-dire avec le sentiment privé, le fait que l'art est du côté de ce qui nous touche et que ça, finalement, c'est une affaire très singulière. Et puis de l'autre, eh bien, le fait qu'il y a finalement une hiérarchie des arts, qu'il y a des grands artistes, des grands poètes, et puis qu'il y a bien, quand on dit c'est beau, il y a bien l'idée de faire reconnaître quelque chose qui est de l'ordre de l'universalité ou du général.
Alors là, on est pour le coup effectivement dans le prélude au criticisme kantien, ou en tout cas au Kant un peu iconoclaste d'ailleurs de la critique de la faculté de juger. Hein. Celui qui, dans le paragraphe 9, explique que quand on dit c'est beau, on prétend parler au nom de l'humanité tout entière.
Oui, à ceci près que Kant, lui, justement, met de côté le sentiment privé. Et que d'une certaine manière, il défait le sentiment de toute matérialité en pensant seulement quelque chose de très désincarné dans le paragraphe 9, effectivement. Alors que Hume lui dit, il faut maintenir le sentiment privé qui se constitue dans l'appréciation esthétique. Et ça, c'est un acquis de sa lecture, je dirais, des belles lettres françaises, et en particulier de quelqu'un comme Dubos, dans les réflexions critiques sur la poésie et la peinture. Voilà, l'art touche. Et donc, Hume repart vraiment de cette idée. Individuellement, si on se replace du point de vue de tout homme, eh bien, l'art touche. Et ça, c'est bien ce que Kant, lui, met de côté d'une certaine manière.
C'est en cela d'ailleurs, mais là encore, hein, Kant lui aussi le reprend en faisant des variantes. Kant explique dans la critique de la faculté de juger que Newton peut parfaitement expliquer d'où viennent ses découvertes, alors que Homère ou Wieland seraient incapables de dire par quel instinct, quel coup de génie ils ont eu pour. Ils ont réussi à écrire ce qu'ils ont écrit. Hume, lui, distingue la science. Du goût, la science, virgule, du goût, en expliquant que les scientifiques commencent par être en désaccord, puis en creusant leur désaccord, ils finissent par s'entendre, alors que, en matière de goût, on commence par être d'accord, et puis dès qu'on creuse un peu, on s'aperçoit que personne n'a le même avis.
Oui, effectivement, parce que quand on est dans le domaine du goût, on est dans un rapport très singulier au sensible. Puisqu'il y a toujours cette affaire d'un côté de sentiments privés. Donc comme on est dans un rapport singulier au sensible, si on creuse les choses, si on va dans la profondeur du goût, eh bien on a tous les risques précisément de trouver des désaccords. C'est parce qu'on est fondamentalement au centre du dispositif du monde sensible.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire
le centre du dispositif du monde sensible, Fabienne Brugère. On est sur France Culture, là. Allez-y.
C'est pas une expression très humienne. On est fondamentalement dans le domaine de ce qui touche, de ce qui émeut, donc du sensible. C'est-à-dire domaine aussi de l'affectivité. Et donc le domaine de l'affectivité, c'est un domaine qui ne peut que partager les individus.
Arioste plaît, mais ce n'est pas par ses fictions monstrueuses et invraisemblables, par son mélange bizarre des styles comiques et sérieux, par le manque de cohérence de ses histoires ou par les interruptions continuelles de sa narration. Il charme par la force et la clarté de son expression, par la vivacité et la variété de ses inventions et par ses peintures naturelles des passions, spécialement celles qui sont d'une essence gaie et amoureuse. Thank you. Fabienne Brugère est notre invitée aujourd'hui dans Les Nouveaux Chemins de la Connaissance pour clore une semaine sur Hume, David Hume, et c'est de l'essai de la norme du goût que nous parlons aujourd'hui, extrait des géniaux essais esthétiques de David Hume, dont je vous recommande la lecture par exemple, en Garnier Flammarion, présenté par René Bouvresse. Fabienne Brugère, Hume, dans la norme du goût, explique que ce qui plaît ne peut pas être une faute, ne peut pas être faux. Si on applique cet adage à toute réalité, on peut considérer, ou qu'est-ce qui nous interdit de considérer, par exemple, que, j'oublie son nom d'ailleurs, comment s'appelle-t-elle ? Enfin, écoutez, peu importe, que n'importe quelle chanteuse la plus médiocre, ou n'importe quel chanteur le plus médiocre, le plus ordinaire, au motif qu'il plaît, au motif qu'il a du succès, eh bien, ne peut pas se tromper.
Je crois qu'en fait, il faut un peu déplacer la question. C'est-à-dire que le domaine du plaisir esthétique, le domaine de ce qui plaît, n'est pas du registre du vrai et du faux. Au sens strict. Donc,
pourtant, il parle de faute.
Hein. Oui, mais quand il
parle... Il ne parle pas de fausseté, mais il parle
quand,
de faute.
Quand il parle de faute, il ne peut pas y avoir de faute, parce que, précisément, on n'est pas tout à fait dans le registre du vrai et du faux. Le plaisir, c'est toujours en rapport avec un assentiment subjectif. Donc, d'une certaine manière, il n'y a pas de faute. On suit une logique subjective, une logique de plaisir, et donc il n'y a pas de faute.
Ce que Deleuze, en Humien qu'il était, appellera la logique de la sensation.
Oui, tout à fait. Ah oui, d'ailleurs, Deleuze, de ce point de vue-là, est vraiment typiquement Humien.
Est-ce que ça veut dire que si on fait silence en soi-même, si on se dépouille de ses préjugés, si on enlève tout ce qui nous sépare finalement d'une œuvre, comme de la réalité d'ailleurs, ce qu'on dit à son sujet ou ce qu'on éprouve à son sujet ne peut pas être erroné ? Fabienne Brugère.
Oui, à ceci près que si on convoque les autres textes de Hume, si on en revient à Hume et si on convoque les autres textes de Hume et en particulier le livre 3 du traité de la nature humaine, l'être humain pour Hume est toujours fondamentalement et avant toute chose un être social. Puisqu'il est toujours un être social, c'est quand même très difficile, même dans le rapport à l'art, de pouvoir se dépouiller de toute son existence sociale. Qui est, quoi qu'il arrive, toujours déjà là. Je pense que justement là-dessus, la conception kantienne, elle serait plus radicale. Parce que Kant, précisément dans l'art...
Parle de désintéressement.
Voilà, parle de désintéressement et prétend que précisément on peut se couper de l'existence sociale des objets, donc de l'existence sociale des œuvres d'art.
Oui, mais en même temps, Hume dit ceci, hein, quand une œuvre s'adresse au public... Même si j'ai de l'amitié ou de l'inimitié pour l'auteur, je dois me détacher de cette situation et, me considérant simplement comme un homme en général, oublier si possible mon être singulier et les circonstances qui me sont particulières. Un homme, ajoute-t-il, qui est sous l'empire du préjugé, ne se soumet pas à cette condition, mais garde avec obstination sa position naturelle, sans se placer à ce point de vue précis que l'œuvre demande.
Oui. Mais comme vous le dites, un homme qui est sous l'emprise du
préjugé. C'est
pas moi
qui le dis.
Donc, comme le dit Hume, c'est-à-dire qu'il y a un certain mode d'existence sociale. Ça ne veut pas dire que toute existence sociale se fait sur le mode du préjugé, mais ce que récuse Hume, et c'est finalement une histoire de bon sens, c'est le fait qu'on vienne vers une œuvre d'art avec un certain nombre de préjugés. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on laisse de côté tout son être social dans le rapport à l'œuvre d'art. Mais en tout cas, on ne doit pas l'apprécier par le point de vue du préjugé, parce que le point de vue du préjugé, on sait ce que ça peut donner dans la question de la critique d'art. On sait ce que ça peut donner comme appréciation. Par exemple, Apollinaire appréciant Kandinsky et disant que Kandinsky, c'est du sous-Matisse. Donc ça, c'est bien du préjugé. Et donc, ça va chez Hume avec d'ailleurs toute la nécessité de redéfinir ou de définir ce qu'est le critique d'art. Et donc, de dire que précisément, un bon critique d'art, c'est celui qui se départit de ses préjugés. C'est celui aussi, d'une certaine manière, qui oublie toute les manières générales d'apprécier l'art et qui essaie d'avoir un rapport singulier à une œuvre. Un rapport singulier, ça veut dire d'une certaine manière que le critique d'art, tout comme finalement ce que pourrait être aussi la bonne appréciation ordinaire, c'est celui qui rencontre l'œuvre et qui donc se départit effectivement eh bien de tout ce qui peut être du registre d'un quelconque préjugé. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne vient pas...
Qui doit être ignorant.
Voilà, enfin...
Se départir de ses préjugés, comme on se déprend de soi-même,
ça ne veut pas dire pour autant être ignorant, effectivement.
Mais alors justement, comment comprendre ce paradoxe d'une candeur du critique d'art, candeur idéale, utopique peut-être, du critique d'art face à une œuvre qui lui donnerait les moyens de la rencontrer, candeur qui serait paradoxalement chez Hume, le sceptique, acquise au terme d'un véritable travail d'apprentissage.
Je dirais, c'est pas une candeur parce que c'est plutôt l'idée, on doit être singulièrement, on doit exister singulièrement dans son rapport à l'œuvre et on ne doit pas venir apprécier l'œuvre avec de grandes catégories qui peuvent devenir des préjugés. On doit essayer de se reporter singulièrement à l'œuvre parce que l'œuvre, d'une certaine manière, c'est un individu. C'est un peu ça, finalement. On pourrait le commenter de cette manière-là. C'est un individu. Et donc, il va falloir que je puisse, finalement, trouver la profondeur, que je puisse pénétrer, d'une certaine manière, la profondeur de cette œuvre.
Mais je voudrais en revenir quand même à ça. Comment est-ce qu'on fait pour être... Alors, laissons de côté la candeur. Mais disons disponible. Permettre à l'œuvre d'art finalement d'accéder à nous et de nous toucher véritablement, donc être un peu dans la situation de l'écorché vif à la limite, celui qui sent véritablement le plus de choses. On va aller vers ce paradoxe humien. Comment faire pour conquérir cette disponibilité, donc, si le mot de candeur vous déplaît, je l'enlève, tout en travaillant?
Oui, ben c'est une question que Hume s'est posée très explicitement. Il rappelle au début de la norme du goût que le bon critique, c'est l'œil attentif. Et donc, apprécier l'art, ça suppose précisément une attention. Et il ajoute un petit peu plus loin dans le texte que précisément, on n'est pas toujours disponible. Et que d'une certaine manière, tout dépend des circonstances. Donc, on revient là, finalement, à quelque chose d'essentiel chez Hume, c'est-à-dire la question de la situation et des circonstances. On n'est pas toujours disponible, précisément, pour apprécier l'art, par exemple.
On n'est pas toujours disponible pour apprécier l'art, mais on peut se rendre disponible. Est-ce que Hume permet de penser le paradoxe selon lequel moins les gens savent, plus ils pensent comme tout le monde? En général, d'ailleurs, le discours le plus ordinaire, peut-être le plus horripilant, le plus agaçant qu'on puisse entendre, c'est « moi qui n'y connais rien, je parle librement ». En général, celui qui commence son discours par ça, c'est celui qui s'apprête à son insu à dire à peu près ce que tout le monde pense. Mmh. Comment se fait-il, par quel mécanisme la connaissance ou l'acquisition d'une connaissance se fait au profit d'une, non pas d'un lieu commun, mais d'une expérience singulière?
L'expérience, en fait, je pense que ce qui est vraiment fondamental...
Comment le savoir gouverne l'expérience? Voilà, c'est ça ma question.
Ce qui est vraiment fondamental chez Hume, c'est l'idée que, d'une certaine manière, le savoir ne précède jamais l'expérience et que le savoir se constitue dans l'expérience. Et que, d'une certaine manière, ce qui fait l'expérience, c'est un travail de l'expérience. Et le savoir, c'est le travail de l'expérience. Enfin, c'est comme ça que je... C'est évident que chez lui, en tout cas, il y a une nécessité de refuser l'opposition entre le savoir et l'expérience, et il y a vraiment cette idée que c'est dans l'expérience que se constitue le savoir.
Mais alors il faut s'entendre justement sur ce que signifie savoir, puisque on peut considérer que ce qui relève d'un savoir fabrique également des préjugés. Hume, par exemple, dit que Homère plaît depuis 2000 ans. Bon, il dit, c'est quand même pas un hasard si Homère plaît depuis 2000 ans. Donc j'ai beau être sceptique, le fait qu'Homère plaise depuis 2000 ans plaide en faveur du talent véritable, authentique, réel, absolu et incontestable d'Homère, de l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée. Mais on pourrait aussi considérer que l'idée reçue selon laquelle Homère est un génie, gouverne notre jugement. Qu'est-ce que Hume dirait d'une expérience médiée, brouillée, empesée par ce qui semble être un savoir et qui en fait relève d'une tête bien pleine, plus que bien faite?
Ce qu'il dirait, c'est que ça ne suffit pas de dire précisément Homère est un grand poète, qu'il faut faire précisément l'expérience de l'Iliade et l'Odyssée, qu'il faut être touché par l'Iliade et l'Odyssée.
Et si ce n'est pas le cas?
Si c'est pas le cas,
est-ce que c'est parce qu'on a des préjugés?
Si c'est pas le cas, ça peut être tout simplement du registre du préjugé. On peut très bien dire Homère est un grand poète
sans l'avoir lu.
Sans l'avoir lu.
Mais en retour, l'autre position, qui est donc l'autre adversaire de Hume, c'est celui qui, par exemple, je ne sais pas moi, le dramaturge imbu de lui-même, qui dirait, je ne sais pas, Shakespeare, j'aime pas trop, par exemple, des choses comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'en retour, celui-là, tout comme celui qui, sans avoir lu Homère, le tient pour un génie, ces deux-là relèvent du préjugé?
Ben, celui qui dit « j'aime pas trop Shakespeare », c'est que précisément, il n'est jamais allé du côté de l'œil attentif. Il en est toujours resté à un certain nombre de préjugés, à un rapport finalement très, très superficiel à Shakespeare, et il n'a jamais essayé d'approfondir, d'une certaine manière, sa relation à Shakespeare.
Alors on va aller du côté de cet œil attentif, ou plus exactement du palais attentif chez Hume, puisqu'il y a dans l'essai de la norme du goût un passage absolument exquis dans lequel Hume reprend une anecdote qui se trouve dans le Don Quichotte, dans lequel Sancho parle de ses deux oncles, œnologues avertis, et qui goûtent du vin, et voici ce qu'il arrive, c'est Jean-Louis Jacopin qui nous l'interprète avec l'accent.
Ce n'est pas à tort, dit Sancho au chevalier au grand nez, qu'il prétend avoir du jugement en matière de vin. C'est une qualité héréditaire dans notre famille. Deux parents à moi furent une fois appelés à donner leur opinion au sujet d'un fou de vin qu'on supposait excellent en raison de son âge et de la qualité de son cru. Les premiers, les goûts, les considère et, après mûre réflexion, déclare que le vin est bon, mais avec un petit goût de cuir qu'il y perçoit. Les seconds, après avoir pris les mêmes précautions, rendent aussi un verdict favorable, mais faisant la réserve d'un certain goût de fer qu'il pouvait aisément distinguer. Vous n'imaginez pas comme ils furent moqués de leur jugement. Mais quels furent à la fin les rieurs? En vidant le flux, on découvrit au fond une vieille clé attachée à une lanière de cuir.
Bien que maintenant je suis un peu grise, mais chut, faut pas qu'on le dise, chut, faut pas. Si ma parole est un peu vague, si tout en marchant je zigzague, et si mon œil est égrillard, il ne faut s'en étonner, car je suis un peu grise, mais chut, faut pas qu'on le dise, chut, faut pas. Faut pas.
Offenbach, dans Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, la péricole à quel dîner je viens de faire, pour commenter cet extrait de la norme du goût, qui est lui-même un extrait du Don Quichotte de Cervantes. Cette anecdote, hein, comme souvent d'ailleurs les récits, est d'une densité, malgré les apparences, une densité étonnante, puisque l'expérience que font les deux oncles de Sancho est une expérience qui résume à elle seule, finalement, toute l'ambition de Hume. Hein. Ils goûtent le vin, ils leur trouvent, chacun, l'un et l'autre, trouve au vin un petit goût, l'un de cuir, l'autre de fer, et à la fin, on découvre une clé à lanière de cuir. Hein. Étonnant, non, Fabienne Brugère? C'est magnifique, étonnant, et puis surtout d'une densité folle.
Oui, c'est un texte qui résume assez bien ce que Hume veut trouver dans l'esthétique. C'est un texte qui résume assez bien ce qu'il veut trouver dans l'esthétique, parce que d'abord, on y retrouve le projet élaboré dès le traité de la nature humaine, et puis ensuite dans l'enquête sur l'entendement humain, d'une vraie métaphysique, ou j'irais d'une science de l'homme, ou d'une science en quelque sorte exacte, la philosophie comme science exacte.
Et finalement, chez Hume, le sceptique.
Hein. Effectivement, ça c'est le deuxième versant, chez Hume le sceptique. C'est-à-dire que le scepticisme de Hume, ce que montre bien le passage, c'est que c'est bien un scepticisme mitigé, voire, moi je dirais, un empirisme, et pas du tout un scepticisme poussé justement dans ces retranchements les plus fous. Puisque précisément ce qu'il montre bien dans ce texte, c'est que l'appréciation des proches de Sancho est une appréciation au départ totalement subjective, le cuir, le fer, et puis au bout du compte, ils émettent un diagnostic. Et on vérifie, on peut vérifier la, la, la vérité, en quelque sorte, du diagnostic. Donc, ça veut dire, le goût n'est pas une affaire strictement subjective. Ma philosophie ne sombre pas dans un triste subjectivisme. Finalement, ma philosophie, elle, elle retrouve le réel. Elle retrouve le réel. Et finalement, eh bien, ces experts, en quelque sorte, du goût, eh bien, sont vraiment... vraiment une capacité à reconnaître le sensible, à connaître le sensible plus précisément. Mais ce sont des experts du sensible.
C'est là, Fabienne Brugère, que Hume dépasse Berkeley comme Descartes, c'est-à-dire dépasse, et dépasse Hume lui-même d'ailleurs, puisque quand on parle de Hume en général, on dit oui, bah, l'existence du monde matériel n'est pas un problème, c'est pas une question qui se pose, en gros il s'en fiche. Si on s'en tient à l'impression, la question de l'existence de ce qui procure l'impression est une question secondaire, qui, comme dirait Hume, n'aurait pas grande importance. Bon, mais en l'occurrence, il renvoie à une réalité chez ce subjectiviste radical qu'est Hume, il renvoie à une réalité qui transcende la perception du sujet, qui va au-delà de ce que le sujet perçoit, c'est-à-dire qu'il il rend compte du réel indépendamment de l'homme.
Oui, parce que comme toujours, Hume se méfie beaucoup du sujet. Il se méfie du scepticisme, il se méfie du sujet, il se méfie des fictions subjectives. Donc il veut vraiment prouver que dans le domaine du jugement de goût, c'est autre chose, justement, que l'élaboration de fictions subjectives. C'est l'élaboration d'une juste appréciation du sensible. Et donc, c'est ça qui est assez génial, je trouve, dans ce texte de Hume.
Vous dites c'est juste, est-ce que ce n'est pas une appréciation, réelle ou vraie même ? Je sais que c'est un gros mot chez Hume, mais pourquoi pas ?
De toute façon, Hume, en ce qui concerne les textes sur l'art, fait toujours coexister un certain nombre de qualificatifs. Alors juste, parfois vrai, bien sûr délicat, mais je crois que le terme de juste, il est quand même assez parlant.
Alors les lecteurs kantiens de Hume disent Hume se contredit. Il met en scène à la fois le scepticisme, le subjectivisme, le fait que chacun ses goûts, et puis en même temps, il renvoie à l'idée d'une norme. Cette norme serait incarnée par la clé à lanière de cuir. Mais lire Hume de cette façon-là, est-ce que ce ne serait pas tirer Hume du côté d'un accord entre les hommes, alors que les hommes ici ne sont pas d'accord, plutôt que la possibilité de la pensée magique aux yeux de Kant, qui consisterait à connaître le réel en soi? Est-ce que finalement le scepticisme de Hume ne débouche pas sur une intuition du réel dans sa singularité, non pas seulement dans son objectivité, puisqu'il n'y a d'objet que pour un sujet, mais dans sa réalité, toute crue, toute nue, ce qui pour le coup n'est pas du tout kantien?
Si, effectivement, et je crois que précisément, Hume a ce souci-là dans son intérêt pour l'esthétique. Il ne faut pas oublier que dès le traité de la nature humaine, il annonce une critique d'art, bon, qu'il n'écrit pas. Et la question de l'art, c'est une question qui revient constamment. Et je crois que la question de l'art, elle lui permet effectivement de renouer avec la perspective d'une intuition du sensible. Alors avec l'idée en même temps que cette intuition du sensible, elle se produit chez certaines personnes qui sont susceptibles en même temps d'un travail dans le rapport à l'art. C'est-à-dire qui ont l'habitude précisément dans le domaine de la peinture de voir des tableaux, qui ont l'habitude de lire, qui ont l'habitude de comparer des œuvres les unes avec les autres. Il y a tout un travail en même temps en lien avec cette possibilité d'une intuition effectivement du sensible.
On retrouve tout ce qui précède la disponibilité à l'œuvre d'art, c'est-à-dire le travail lui-même.
Oui, tout à fait. Il y a vraiment cette idée que l'appréciation de l'art est susceptible d'un travail. Et ça, c'est pas du tout kantien.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind.
Bien qu'il soit assuré que la beauté et la difformité, plus encore que le doux et l'amer, ne peuvent être des qualités inhérentes aux objets, mais sont entièrement le fait du sentiment interne ou externe, on doit reconnaître qu'il y a certaines qualités dans les objets qui sont adaptées par nature à produire ces sentiments particuliers. Maintenant, comme ces qualités peuvent exister à un faible degré ou bien peuvent être mélangées et confondues les unes avec les autres, il arrive souvent que le goût ne soit pas affecté par des traits aussi délicats ou ne soit pas capable de distinguer toutes les saveurs particulières dans le désordre où elles sont présentées. Là où les sens sont assez déliés pour que rien ne leur échappe et en même temps assez aiguisés pour percevoir tout ingrédient introduit dans la composition, c'est là ce que nous appellerons délicatesse de goût, que nous employons ces termes selon leur sens littéral ou selon leur sens métaphorique. Et c'est ici, ajoute Hume, hein, que les règles générales de la beauté sont d'usage. Fabienne Brugère, quand on a de la délicatesse, et il faut en venir à ce qu'il appelle la délicatesse, quand on accède à la délicatesse, c'est-à-dire à cette connaissance du réel, presque indépendamment de soi, on peut formuler à ce moment-là les règles générales de la beauté et accéder à la norme.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que Hume, dans ce texte, a tout à fait à l'esprit l'idée qu'il y a plusieurs formes, je dirais, d'intelligence. Et qu'il y a une forme d'intelligence qui passe par la délicatesse. Et que précisément cette forme d'intelligence qui passe par la délicatesse, c'est une perception et c'est une appréhension des règles générales de la beauté.
Ça veut dire que, à ce titre-là, le jugement de quelqu'un, encore que ce soit chacun ses goûts, hein, le jugement de quelqu'un peut être considéré pour plus pertinent que le jugement d'un autre.
Exactement. Ça, c'est très clair dans le texte de Hume. Il y a des jugements de goût qui sont plus pertinents que d'autres parce qu'ils vont plus en profondeur dans le rapport à ce qu'ils apprécient.
Ça veut dire qu'on peut être sceptique sans être relativiste ?
Exactement. Parce qu'on est empiriste.
C'est-à-dire on repose sur l'expérience.
Et on voit que dans l'expérience, il y a des règles, il y a des principes, il y a des lois.
Il dit énoncer ces règles générales ou ces modèles avérés de composition est comparable au fait de trouver la clé avec lanière de cuir.
Oui. Non, c'est vrai que c'est très profond. Et puis, c'est aussi très nouveau. Au XVIIIe siècle. Parce que, alors qu'on a toujours pensé finalement la profondeur du côté de l'absolu, du côté de la transcendance, Hume va penser une profondeur du côté du sensible. Et ça s'inscrit bien dans la perspective humienne que je trouve extrêmement séduisante au XVIIIe siècle, finalement, d'un désenchantement du monde. Et le monde n'est pas du côté du supra, d'une certaine manière, il est du côté de l'infra. Et il y a une profondeur du sensible. Le sensible est profond d'une certaine manière. Ce que les philosophes ont toujours considéré comme étant superficiel, c'est-à-dire le sensible, eh bien, est susceptible d'une profondeur.
La grande entreprise en philosophie, c'est de surmonter les apparences. Surmonter les préjugés, surmonter les apparences, quelle que soit la forme que prend l'ambition de surmonter les apparences. Alors, chez Platon, surmonter les apparences se fait au profit de l'idée. Chez Bergson, qui est un lecteur de Platon, mais un lecteur subversif de Platon, surmonter les apparences se fait au profit du singulier, de la mobilité des choses. Est-ce qu'entre les deux, il n'y a pas Hume qui, justement, surmonte les préjugés, surmonte les apparences, pour découvrir non pas la transparence de l'idée, mais au contraire l'opacité du sensible ?
Oui, tout à fait. L'opacité et la profondeur du sensible. Et il y a donc des connaisseurs du sensible.
Des connaisseurs du sensible, c'est-à-dire, vous dites connaisseurs
en quel
sens ?
Par exemple, et précisément, les proches de Sancho sont des connaisseurs du sensible.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont capables d'émettre un jugement de goût, de faire que le sentiment qu'ils construisent n'est pas seulement un sentiment privé, mais précisément, c'est un sentiment juste. À l'égard du sensible. Et donc, ce sont des êtres qui sont capables de découvrir les qualités réelles du sensible, qui, bien évidemment, nous dit Hume, ne sont pas à fleur de peau, c'est-à-dire ne sont pas immédiatement là.
Donc ça veut dire que les aristocrates du goût dont ils parlent, contrairement à ce que disent les Kantiens en général, ça n'est pas la nature humaine comme telle.
Bah, c'est une des difficultés des textes esthétiques
c'est
de Hume.
C'est l'élite de la nature humaine.
Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il a eu du mal à écrire sur l'esthétique. C'est-à-dire que le souhait de Hume au départ, c'est effectivement de décrire l'homme ordinaire. Et le traité de la nature humaine, c'est une description de l'homme ordinaire et le rappel que la philosophie devrait enfin se soucier de la description de l'homme ordinaire. Et forcément, dans ce dispositif, il y a un problème avec l'art. Il y a un problème avec l'art parce que le jugement de goût, c'est effectivement une donnée qui renvoie à des hommes extraordinaires, de la même manière que l'artiste, c'est un homme extraordinaire, qu'une œuvre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc du coup, je pense que quand Hume écrit le traité de la nature humaine, il y a une difficulté à vraiment pouvoir aborder le thème de l'art parce qu'on est dans le domaine de l'extraordinaire. Et donc je crois que dans la norme du goût, il arrive à concilier finalement, alors il y a des tensions, c'est peut-être pas totalement abouti, mais il arrive à concilier la science de la nature humaine, le projet de la philosophie comme description de l'homme ordinaire, et puis de l'autre côté, la description de ces hommes extraordinaires que sont les critiques d'art.
Et ce qu'il appelle les critiques d'art, mais il n'y a
enfin,
pas...
Enfin, les experts, les critiques...
Mais alors, cette expertise qu'il fait valoir, finalement, d'ailleurs, tout ça est compréhensible selon des termes assez communs. Un expert aujourd'hui, ou quelqu'un qui se proclame expert, c'est quelqu'un qui, comme on arbore une médaille, fait valoir une science. L'expert auquel Hume pense serait quelqu'un qui, comme on planque sa médaille, justement, essaierait d'oublier tout ce qu'il sait, et pour l'oublier, aurait commencé par l'apprendre.
Oui, c'est encore très humien, c'est un sacré pied de nez à l'égard de toutes nos expertises, je dirais, contemporaines et de toutes nos définitions contemporaines de l'expertise. C'est un expert sans carte, d'une certaine manière.
Vous avez lu le Parfum de Suskind, Fabienne Brugère. Jean-Baptiste Grenouille dans Le Parfum n'a pas d'odeur. C'est sa particularité. Il ne sent rien lui-même. Il n'a pas d'odeur, ni il sent mauvais, ni il sent bon. Enfin, il n'a pas d'odeur. Du coup, il perçoit la totalité des odeurs qui sont dans le monde, ou en tout cas les odeurs en nombre infini. Il peut tout sentir. Il sait ce que font les gens, il sait ce qu'ils éprouvent, il sait ce qu'ils ressentent. Il sait tout. Il n'a pas d'émotion, donc il sait ce qu'ils ressentent. Il n'a pas d'odeur, donc il sait ce qu'ils sentent. Est-ce qu'on est là, par exemple, dans une figure humienne de la délicatesse ? Est-ce que le monstre, qui est le héros du parfum, hein, qui est un tueur, est le prototype presque abouti de ce que Hume appellerait l'aristocrate du goût ?
Il est peut-être un petit peu trop monstrueux. Il sort peut-être un petit peu trop de la nature commune des hommes. Parce que chez Hume, il y a quand même cette idée que pour élaborer un bon jugement de goût, d'ailleurs c'est une expression assez problématique, il faut en quelque sorte être dépositaire d'une nature humaine saine. Donc d'une certaine manière, dans Le Parfum de Suskind, on n'est plus dans la problématique d'une nature humaine saine. On est déjà dans le cas d'un monstre. Donc de ce point de vue-là, c'est pas très humien. Mais en revanche, ce qui serait humien, c'est cette capacité à approfondir précisément le sensible et à devenir un expert du sensible.
Devenir un expert du sensible, c'est par exemple l'ambition qui est celle de Proust dans le Temps retrouvé. Quant à la fin du Temps retrouvé, Proust a la révélation du roman qu'il va écrire, enfin du livre qu'il va écrire, il dit ce serait un livre aussi long que Les Mille et Une Nuits peut-être, mais tout autre. Sans doute quand on est amoureux d'une œuvre, on voudrait faire quelque chose de tout pareil, mais il faut sacrifier son amour du moment et ne pas penser à son goût, mais à une vérité qui ne nous demande pas nos préférences et nous défend d'y songer. On est là dans l'abandon du subjectivisme et on est pourtant chez Hume en un sens.
Oui, tout à fait. Parce qu'on est bien dans l'idée que seul vaut la profondeur du sensible, précisément. Et d'ailleurs, c'est peut-être par là que passerait aussi tout le rapport de Deleuze à la philosophie de Hume, lorsqu'il reprend cette phrase du Contre Sainte-Beuve, tout beau roman est écrit dans une sorte de langue étrangère. La langue étrangère, c'est finalement la possibilité d'avoir un rapport singulier et profond au sensible.
Et on retrouve chez Deleuze, par exemple, chez Deleuze, l'idée qu'il faut lire les philosophes en étant fidèle aux impressions qu'il dépose en nous. Le grand lecteur qui est Deleuze voulait être fidèle aux philosophes en étant fidèle à lui-même quand il les lisait.
Oui, tout à fait. La lecture que Deleuze fait des philosophes, c'est une lecture humienne, empiriste.
Empiriste. Alors, est-ce qu'on pourrait résumer, Fabienne Brugère, l'empirisme comme l'art d'être de se défaire de son propre goût, de ses propres humeurs, en somme, hein, de ses préjugés, l'art de, disons, de retrouver le réel en se défaisant de ses propres humeurs, c'est-à-dire en étant fidèle à soi.
Oui, tout à fait, parce que l'empirisme, c'est une tentative de se déprendre de ses certitudes, de se déprendre de ses préjugés pour précisément, d'une certaine manière, au départ, s'abandonner à l'expérience. Et c'est parce qu'on s'abandonne à l'expérience qu'on va pouvoir en trouver les principes, les règles, et que donc on va pouvoir précisément faire quelque chose de l'expérience.
Non, on pourrait parler de générosité ici ou pas, selon vous ?
Oui. De générosité dans le rapport au sensible.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire que, et là, ça renverrait encore, à, je dirais, à une grande nouveauté de la philosophie de Hume. C'est-à-dire que je pense que Hume part de l'idée que les philosophes, les grands philosophes rationalistes du XVIIe siècle, que ce soit, pense plus précisément à Descartes, souvent chez Hume, les grands philosophes rationalistes du XVIIe siècle ont manqué de générosité dans leur rapport à l'expérience. Et lui, précisément, d'une certaine manière, il introduit de la générosité dans le rapport au sensible. Et donc, l'expérience, faire une expérience, être dans l'expérience, ça suppose une forme de générosité.
Et donc, ce qu'il appelle la norme du goût, est-ce que c'est la vérité du goût ou est-ce que le mot de norme convient véritablement ? Parce que l'idée de norme renvoie quand même à une convention que les hommes passeraient entre eux et qui, le terme même, d'ailleurs, je ne sais pas quel mot il emploie en anglais, mais le terme même désigne davantage une opération conventionnelle entre les hommes plutôt qu'un renseignement sur le réel, indépendamment d'eux.
Oui, le terme anglais, c'est celui de standard. Et Michel Malherbe a produit une autre traduction du titre de la règle du goût. Et peut-être que la notion de règle, elle rend plus compte de ce qui se joue dans standard, c'est-à-dire l'idée effectivement de quelque chose d'opérationnel. Ce que montre peut-être moins le terme de norme en français, qui va plus dans l'idée de quelque chose qui nous est imposé.
Tels les préjugés qui opacifient le goût, l'expérience du goût, la désannonce de cette émission va venir polluer Casta Diva de la Calas. C'est pas grave, on le diffuse uniquement parce que c'est incontestable qu'on ait des préjugés ou pas. De toute façon, on est saisi par ça. Le réel, cette fois-ci, nous renvoie à nous-mêmes. Merci Fabienne Brugère, merci infiniment d'être venue. Avec vous s'achève cette semaine sur David Hume. Je rappelle que vous enseignez à Bordeaux. C'est des écrits esthétiques de Hume qu'on vient de parler. Hein. Les essais esthétiques, on les trouve en Garnier-Flammarion. Ils regroupent les écrits de Hume sur ce sujet. Et je renvoie là encore à votre livre « L'expérience de la beauté » chez Vrin en 2006 et puis chez Gallimard « C'est trop beau », un livre paru en 2008. Excellent titre. Un grand merci à Jean-Louis Jacopin pour la lecture des textes de Hume que vous avez entendus tout au long de cette semaine, des textes lus avec l'accent. C'était merveilleux. Pour mémoire, lundi, on recevait Michel Malherbe sur la causalité. Mardi, Jean-Pierre Clairaut et Didier Deleuze sur les passions. Mercredi, Éléonore Lejallet et Philippe Saltel sur la morale. Jeudi, Frédéric Brahami est venu nous parler de l'identité, du moi. J'ai vraiment des scrupules à reprendre la parole là-dessus, mais bon, tant pis. La semaine prochaine, les nouveaux chemins de la connaissance seront consacrés à la démocratie. Rien à voir avec Hume, encore que. Je recevrai lundi, rien à voir avec Hume, là pour le coup, Jacques Rancière, pour parler de la haine de la démocratie. À la technique aujourd'hui, le citoyen Jacques Vincent. À la réalisation, la démocrate Christine Digère, assistant et collaboration. Adèle Van Red, Jennifer Murzo, Igor Kortolitsa et Geneviève Méric, à qui nous envoyons un salut amical dans l'Indochine où elle se trouve maintenant. France Culture, il est 17h50. Tout de suite, Albert Jacquard.